Radio Galère 88.4 et on se retrouve pour comme chaque semaine pour une heure en Palestine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le collectif Tzedek. Alors dans le bocal avec nous, eh bien, Avi.
Bonjour.
Adam.
Yotam.
Et Jérémy qui est quelque part. Et puis Corinne qui nous écoute. Et bien sûr à la technique, Sidi. Voilà, alors le collectif Tzedek, eh bien écoutez, on vous laisse la parole, qui commence pour nous présenter le collectif.
Je peux commencer. Donc le collectif Tzedek est un collectif juif, décolonial et antiraciste, qui s'est créé donc en juin dernier, qui ressemble beaucoup à l'UJFP, mais qui a en gros a des racines un petit peu différentes, même s'il y a beaucoup de ses membres, notamment de ses fondateurs qui viennent de l'UJFP. Mais on en reviendra peut-être un peu plus tard sur peut-être les différences qu'on a avec l'UJFP. Mais en gros, il descend beaucoup donc, de l'émission Parole d'honneur, sur laquelle beaucoup de personnes donc, juives écoutaient, et ils se sont rassemblés petit à petit pour avoir une émission à Olam Hazeh sur Parole d'honneur, et petit à petit, ils se sont concertés entre eux pour pouvoir finalement créer en juin dernier donc, un collectif qu'il voulait militant pour parler donc, du racisme, parler de la cause palestinienne, donc du conflit israélo-palestinien, avec un point de vue juif qu'il pensait donc, quand même être important, et surtout qu'il voulait ramener cette identité quelque part.
Alors, vous évoquez ce lien avec l'UJFP, on peut y revenir, oui. D'abord, la différence avec nos amis de l'UJFP, c'est que vous êtes jeunes.
Oui.
Ils le sont un peu moins.
Oui, c'est ça. Il y a quelques membres, on va dire, qui dépassent la quarantaine. Mais en matière générale, je pense que la moyenne d'âge doit être entre 25 et 30 ans, au grand maximum. Il y a quand même quelques différences. Enfin, l'une des différences, déjà, c'est qu'on a une position qui n'est pas seulement politique, qui est aussi identitaire, culturelle et potentiellement même culturelle, en tout cas sur le point de vue de l'identité juive. J'ai cru, mais peut-être que je me suis trompé, c'est aussi on a envie d'avoir une place très présente par rapport aux luttes antiracistes en France, en fait l'UJFP aussi, mais bon, on l'entend pas trop. C'est pas ce que je veux dire, mais en gros on nous questionne énormément sur le conflit israélo-palestinien, et on a en gros l'envie réelle d'arriver à se positionner sur d'autres conflits et d'être visible, en gros d'apporter une parole dans d'autres conflits, surtout dans d'autres positions contre le racisme.
Oui, l'anticolonialisme n'est pas uniquement sur la Palestine. Et en tant que Français, par exemple, on a vraiment besoin d'être anticolonialiste beaucoup plus globalement, vu la politique de notre pays. Et ce n'est pas étonnant que la France soit aussi proche du colonialisme israélien, parce que, quelque part, la maman de l'État d'Israël, c'est bien la France et le papa est le Royaume-Uni. Voilà. Donc, vous êtes en lien donc, avec l'UJFP, mais aussi avec d'autres organisations juives, organisations d'autres confessions ou d'organisations simplement politiques.
Comme on est un peu jeune, pour l'instant, pas tant que ça. Je peux parler, il y a le point parisien, techniquement, il y a le premier de Tzedek et puis le second... à l'antenne marseillaise. Avec l'antenne parisienne, ou en tout cas la première antenne de Tzedek, il y a des liens plus avec des partis politiques, certains, mais c'est surtout individuellement où il y a des personnes qui ont été militants ou qui le sont toujours de certains partis politiques. Ensuite, ici à Marseille, on n'a pas encore lié de lien avec des communautés religieuses. On aimerait bien le faire. Mais on a surtout été accueillis depuis quelques semaines avec toutes les organisations associatives pro-palestiniennes qui, quand même, je tiens à le dire, nous ont très bien accueillis, notamment dimanche dernier. Donc Urgence Palestine, Marseille-Gaza, je ne sais pas si je dois tous les citer, il y en a pas mal, ça va, mais qui nous ont accueillis magnifiquement bien. Je voulais aussi dire quand même qu'on était, on est très jeune ici à Marseille. Donc si le collectif parisien s'est créé en juin dernier, nous, on s'est créé, on va dire, grand maximum il y a un mois et demi.
Oui.
Si je ne dis pas n'importe quoi. Notre première réunion a eu lieu il y a un mois et demi, c'est ça? Et on est pour l'instant une petite dizaine. Voilà.
C'est beaucoup pour démarrer. Il y a beaucoup qui ont démarré avec beaucoup moins de monde. Et puis en plus, vous êtes un collectif mixte avec différentes origines, américain,
franco-israélien,
bien sûr. Et vous apportez un souffle nouveau peut-être dans la lutte pour la justice
Oui, non, c'est vrai qu'on essaie en fait avec CEDEC de combler une forme de vide qu'il y a pu avoir en France, notamment sur la question antiraciste et décoloniale, notamment au regard de la Palestine. On sait que en France, la France est le troisième pays avec la plus grande communauté juive du monde, et c'était important, surtout dans le contexte actuel aussi, de s'insérer dans ce climat durablement et pérenniser l'idée qu'il existe de nombreux juifs français et de divers horizons qui souhaitent manifester leur intérêt et leur soutien total aux discriminations et aux violences faites au peuple palestinien.
Oui, justement, alors vous évoquez, on en parlait tout à l'heure, de cette différence, de cette peut-être spécificité, je ne sais pas, française, contrairement aux États-Unis, où les juifs, on va dire, anticolonialistes sont extrêmement présents. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette variété française, cette spécificité française?
Justement, donc pour revenir, vous faites bien de mentionner justement la communauté juive américaine, qui est la seconde communauté la plus importante après celle de l'État d'Israël. Donc pour revenir par exemple sur un slogan assez célèbre de la communauté américaine, c'est le « Not in our name », donc « Pas en notre nom », qui est le slogan qui est assez arboré par notamment l'organisme de Jewish Voices for Peace, qui est un organisme juif justement aussi antiraciste, décolonial. Et en fait, en France, on a voulu aussi suivre justement cette lignée avec CEDEC, parce que justement cette voie-là, cette juive diasporique, elle existe universellement dans le monde, pas uniquement aux États-Unis. Et nous aussi, en tant que juifs descendants, tout comme des juifs américains et des juifs d'ailleurs dans le monde, par ailleurs, les juifs américains qui ont un débat très antisioniste et qui débattent beaucoup sur les questions d'Israël-Palestine depuis très longtemps, nous aussi, on veut s'immiscer dans ces débats. Nous aussi, on veut porter une voix en tant que descendants de victimes de la ségrégation et de la violence faite à des communautés juives. On a la spécificité aussi d'être une population juive française qui a subi beaucoup de violences pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un quart des juifs français, 75 000 qui ont été déportés, beaucoup souvent issus de nos familles, de loin ou de près. Et on veut aussi manifester le fait qu'on n'est pas d'accord avec ces violences qui sont faites en Palestine, et qu'on ne veut certainement pas remettre à nouveau en avant des choses qui se sont faites par le passé à nos proches, à d'autres personnes.
Alors, je ne sais pas si dit, est-ce qu'on peut juste faire une pause musicale? On reprend notre souffle et on redémarre après
عالقوف مش عالقوف مش عالاني مع السلامة يا ربع وخلاني عالقوف مش عالقوف مش عالاني دربك سافر جل والحصى رماني مش عالرماني كبير بالبري لا طيور ولا وحوش تعلم بي وان كان يا مش عالقوف مشعل يا غاوي ليش جسمك اللاوي جابوا المداوي والألم جواني مشعل يا روحي قوم داوي جروحي لخدك
voilà, on revient dans le studio, on débat, on discute entre nous, c'est nouveau. D'habitude, on est tout seul dans le studio, mais là, aujourd'hui, c'est très animé. On revient avec toujours Tzedek, et la question qu'on n'a pas posée, c'est Tzedek, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Tzedek?
Alors, le terme de Tzedek, en traduction littérale de l'hébreu, ça veut dire justice. Et c'est pas seulement le nom de notre organisme, mais bien les valeurs et le message que nous, on veut porter avant tout. C'est l'idée de vouloir instaurer une justice et vraiment la pérenniser à long terme dans l'entité territoriale actuelle de l'État d'Israël et de la Palestine, où justement ces deux populations puissent vivre et de façon durable, de façon égale, sans ségrégation, sans violence. Et par Tzedek, on entend aussi toutes nos autres luttes, pas forcément liées à la question israélo-palestinienne, celles liées à l'antiracisme, celles liées et toutes ses composantes, notamment l'islamophobie, l'arabophobie, l'antisémitisme, dont on combat aussi énormément. Et voilà, ce qu'on souhaite vraiment par l'idée de Tzedek et par ce nom qu'on porte, c'est d'instaurer des valeurs à long terme sur beaucoup de champs sociétaux divers. Nos combats sont pluriels.
Qu'il y ait une justice et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, qu'il n'y ait pas tous ces. Les vies sont égales, mais.
Oui, c'est vrai.
Voilà ce qu'on essaie de combattre par Tzedek.
Qu'on combat d'ailleurs férocement.
on essaye.
Oui.
Alors, on parle de sionisme, anti-sionisme. Pour vous, le sionisme, comment vous le voyez? Et l'anti-sionisme, comment vous vous positionnez peut-être sur différents plans, pas uniquement politiques
Alors, pour revenir du coup sur le sionisme, je ne vais pas refaire toute l'histoire du sionisme qui est très longue qui prend très fastidieuse. Mais du coup, par sionisme, on entend l'idée d'établir originellement un foyer de population juive en terre de Palestine. Et c'est une idéologie qui a été amenée à beaucoup évoluer. Et aujourd'hui, nous, quand on se réclame et qu'on se revendique anti-sioniste, on s'oppose en fait frontalement, idéologiquement, à cette idéologie qui veut mettre en place un État-nation où les Juifs et leur langue à eux seraient supérieurs à la population historique territoriale de la Palestine. Toutes les politiques restrictives à l'égard d'une population vis-à-vis d'une autre, donc de la population israélienne vis-à-vis de la population israélienne, qui consisterait à ségréguer socio-spatialement, à effectuer et produire des violences quotidiennes et du racisme ordinaire sur une population, c'est quelque chose auquel on est frontalement opposé. On souhaite que nous, à long terme, les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre ensemble et puissent vivre de façon équitable et égalitaire dans cet espace territorial. Et on n'est certainement pas ce qu'on entend par antisionisme, pour répondre à beaucoup de détracteurs, on n'est certainement pas dans l'idée de vouloir détruire ou déporter la population israélienne qui existe manifestement et qui aujourd'hui s'établit à des millions de personnes et par plusieurs générations. C'est absolument pas ce qu'on entend par antisionisme. Nous, c'est cette idéologie impérialiste, dominatoire.
Dominatrice.
Ouh là là, pardon, j'en perds mon français. Dominatrice, qu'on combat férocement. Et c'est ça qu'on entend surtout par antisionisme aujourd'hui. Voilà.
Alors ça, c'est sur le plan politique, peut-être sur le lien avec la religion.
Bien sûr, il y a un lien avec la religion, mais moi, je voulais aussi amener autre chose. On veut aussi sauver une population qui, en ce moment, est en train d'être massacrée.
C'est ça.
C'est aussi ça, c'est se rappeler que c'est bien d'avoir des idées politiques et tout ça, Évidemment. Mais que justement cette justice de ne pas faire de deux poids deux mesures, c'est bien de dire qu'en ce moment il y a des gens qui meurent et que on aimerait qu'elles ne meurent pas que les gens puissent simplement vivre sur une terre.
Alors, on vous parle actuellement à Rafah, il y a toujours énormément de victimes palestiniennes quotidiennes, c'est-à-dire même horaires, et nous on lutte évidemment contre ça, et notre parole elle est aussi émancipatrice d'un mouvement qui veut s'opposer à tout ce qui se passe actuellement, la minute où on vous parle.
Sur le plan peut-être plus cultuel, puisque comme vous avez utilisé le terme, ce positionnement, judaïsme, sionisme
Bien sûr, on a l'idée. Dans l'idée de Tzedek et dans l'antisionisme de Tzedek, il y a aussi la position en fait que la position qui montre que le sionisme a une position antisémite en tant que telle, parce qu'elle a détruit et elle continue à détruire dans l'unification qu'elle fait du judaïsme, en fait, dans cette idée en gros d'une anthropologie unique, d'une idéologie unique, et ensuite c'est un petit peu l'idée d'un état-nation, donc une nation pour une terre, c'est l'idée que le peuple juif serait unifié autour de cette terre. Parce qu'il faut quand même rappeler, bon, je rappelle un petit peu d'histoire, même si Yotam ne voulait pas revenir dessus, mais c'est que à la création, en tout cas, de l'idéologie au XVIIIe siècle du sionisme, les premiers à dire non, ce sont les religieux. Ce sont les créateurs de culture, les créateurs de théologie, les créateurs de sagesse. C'est eux qui voient d'un mauvais œil, justement, l'unification du peuple sur un territoire. Parce qu'on découvre bien, en fait, que le sionisme a détruit culturellement, enfin, tellement de traditions, tellement de cultures, tellement d'idéologies et de sagesse, sans parler après même des campagnes de stérilisation des juifs yéménites et éthiopiens, ou d'autres méfaits atroces qu'a fait l'État sioniste. Mais c'est surtout de dire que, enfin, en tant que décolonial, on est contre cette idée de l'État-nation. Et je pense d'ailleurs même qu'on a une idée, en gros, bon, je le dis un petit peu comme ça, mais c'est que le judaïsme est antinomique de l'hégémonie. Elle est antinomique de cette unification. Il y a quelque chose dans notre judaïsme et dans notre tradition qui est justement du pluralisme en tant que tel. Parce que le judaïsme s'est construit dans le débat, s'est construit en fait dans la contradiction perpétuelle. Et même, enfin, bon, je vais paraître un petit peu théologien là, mais même quand il y avait un temple à Jérusalem, personne n'était d'accord et il y avait déjà des juifs qui vivaient ailleurs. Bon, je ne veux pas revenir trop longtemps sur la théologie.
Non, mais c'est passionnant.
C'est gentil. Mais il y a vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on a envie, nous, de cultiver, une identité juive de la diversité, du pluriel, et qui est, non pas nécessairement essentielle, mais dont la force est d'être diverse. Et vraiment, le sionisme, ça appelle cette idée qu'il y a une pureté de l'ethnie qu'on doit ramener en Israël. En plus de ça, après, il y a tout un débat sur quelle est cette pureté qui devient aujourd'hui violente. Enfin, c'est vraiment le soldat puissant qui arrive, qui détruit. Ben, oui, là, encore une fois, pour reprendre les termes des antisionistes américains, c'est pas en mon nom que je veux ça et je ne pense pas que mon judaïsme doit servir à cette hégémonie violente.
Je rajouterais même quelque chose, c'est que la religion juive d'ailleurs, enfin le judaïsme en général, n'est pas une religion prosélyte. Et donc tout ce qui appartient au colonialisme et à l'expansion, ce n'est pas une valeur juive de base. Et je pense d'ailleurs que c'est une religion qui s'adapte énormément au pays dans lequel les juifs vivent, c'est-à-dire que les lois juives d'ailleurs s'adaptent en fonction des lois même du pays, ouais. Et de la culture ambiante. Par exemple, pour un exemple simple, les femmes en Europe, certains décisionnaires rabbiniques ont décidé que pour passer un petit peu plus inaperçus, elles devaient porter une perruque. Certains même pensent qu'elles ne doivent même plus cacher leurs cheveux. Donc les lois juives s'adaptent aussi en fonction des autres peuples, des autres cultures et des autres pays dans lesquels les juifs vivent. Et donc le judaïsme est fait pour s'adapter. Et on est fait pour vivre avec les autres peuples en paix. Et on n'a pas besoin forcément d'un pays pour pouvoir vivre notre religion. Elle peut être vécue de partout.
Moi, j'ajouterais quelque chose aussi, effectivement, sur cette question d'identité juive et d'antisionisme. En fait, ici, au vu de nos parcours et de nos expériences singulières à chacun d'entre nous, des expériences qui sont aussi communes, on sait très bien que l'histoire juive, elle est parsemée d'un très lourd héritage antisémite. Très vieux, qui a peut-être un des plus vieux racismes. On ne va pas revenir sur cette histoire, mais on pourrait parler de nombreux événements qu'il y a eu en France, comme l'affaire Dreyfus, des événements qu'il y a eu en toute l'Europe, la propagation du protocole des sages de Sion, en passant jusqu'au camp d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Cet antisémitisme, il est lourd, il est violent, et notre existence aujourd'hui, elle témoigne d'un refus, d'un refus de laisser faire justement des violences du même ordre qu'aujourd'hui l'État d'Israël applique à la minute où je vous parle, et cela au peuple palestinien, et que ces actions depuis sa création d'ailleurs ont eu des effets très négatifs aussi sur les populations diasporiques juives qui ont subi des conséquences énormes et des revers d'antisémitisme avec des populations avec qui historiquement on s'est toujours extrêmement bien entendu. Encore une fois, pour revenir un petit peu et faire ici encore un petit peu d'histoire, même si c'était pas le propos, on sait très bien que les communautés juives ont vécu le mieux pendant, à travers l'histoire et à travers les siècles, c'était auprès des populations, notamment musulmanes, que ce soit au Maghreb, qui était en joug du de l'Empire ottoman, ou chez les Turcs. On savait très bien qu'avec la dhimmi et l'impôt payé par les populations de la religion du livre, on pouvait vivre bien plus paisiblement que sous l'Inquisition et toutes les diverses discriminations faites par les populations chrétiennes et christianiques. Donc aujourd'hui, quand on parle souvent d'origine et de religion judéo-chrétienne, on oublie ou on essaye d'effacer un antisémitisme continental, européen, très structurel, très fort, qui existe toujours et qui est ancré dans les esprits. Et nous, on est aussi témoins de ce nouvel antisémitisme qui a découlé des actions d'Israël depuis sa création. Et c'est aussi ça qu'on veut combattre à Tzedek. Et c'est aussi le témoignage de nos vies respectives, celles de descendants de populations victimes de violences, qui font qu'aujourd'hui, on est absolument opposé à des violences faites quotidiennes à des populations qui n'ont rien demandé et qui sont aujourd'hui les victimes des victimes.
Et c'est, enfin, pour continuer là-dessus, il y a enfin, une des volontés donc, du sionisme, enfin, comme... indiqué par Herzl, c'est de faire la remarque que, pour lui, donc, les Juifs ne sont plus en sécurité en Europe. Mais déjà, l'un des premiers points, c'est que le sionisme qu'il crée, ou en tout cas le sionisme effectif aujourd'hui, ne crée pas non plus la sécurité bien des sûr. Juifs. Premièrement, on peut dire simplement parce que quand il y a oppression, quand il n'y a pas de justice, qu'il y a des paix, on va dire, illusoires, il y a de la violence, donc il n'y a pas de sécurité. C'est pour rappeler quelqu'un qui a fait un discours il n'y a pas longtemps, qui a dit qu'il n'y aura pas de sécurité tant qu'il n'y aura pas de justice. C'était moi dimanche dernier, mais ce n'est pas grave. mais c'est aussi, en gros, pour montrer que cette idéologie sioniste, elle continue en fait l'idéologie antisémite, qui est de dire que le juif est étranger en sa terre. Que alors qu'il est créateur donc de culture, de science, de sagesse... Je peux nommer des noms, c'est toujours bien de nommer des noms, mais que ce soit la littérature, que ce soit la science, la philosophie, on retrouve des juifs un petit peu partout dans le monde. Et de penser que, alors qu'ils sont créateurs de culture, de littérature, mais même d'identité dans les terres qu'ils vivent, se penser encore étranger à ce moment-là, ça c'est antisémite. C'est le même discours antisémite qu'a eu Hitler, mais qu'a eu même avant ça, en gros, l'Europe antisémite. Mais quand même, l'Église a eu un discours antisémite aussi par rapport aux Juifs, justement, qu'il voyait comme étrangers. Mais ça, c'est la continuité d'un antisémitisme, de dire que le Juif doit continuer à être étranger, donc sa terre doit être ailleurs. En tout cas, et... Oui ?
Tu peux continuer aussi longtemps que tu veux. Du temps et on va en profiter parce que c'est absolument passionnant. Continue sans prix.
Moi, je voulais aussi revenir... Normalement, on ne prend pas de pause à la radio, je sais.
Mais moi, alors, je vais reprendre le relais puis on fera une pause musicale après. Mais je voulais revenir justement, effectivement, comme vous avez évoqué, sur le fait, par exemple, que le premier congressionniste qui devait se tenir à Bâle n'a pas pu se tenir à Bâle et s'est tenu en Suisse. Tout simplement parce que 90% des rabbins avaient signé une pétition en refusant de souscrire à cette idéologie. Je reviens aussi sur Lord Balfour qui fait une promesse à Lord Rothschild et puis le seul juif du cabinet à ce moment-là, Lord Montaigu, qui dit non. Parce que dans ce cas-là, les juifs ne seront peut-être en Palestine chez eux, mais en tout cas, ils seront des étrangers partout, partout dans le monde, dans un autre pays. Donc effectivement, et nous le disons souvent, nous qui ne sommes pas juifs, c'est sionisme et antisémitisme sont les deux faces de la même médaille. Et nous voulons vivre, quelle que soit notre religion ou notre absence de religion, nous devons lutter ensemble contre toute forme de discrimination, de racisme, d'homophobie, islamophobie et évidemment antisémitisme comme une des formes particulières de racisme et de ségrégation.
Je reviens sur quelque chose que vous avez dit qui est assez intéressant, notamment sur l'intersectionnalité. Et là, on va parler d'un sujet qui est aussi propre à l'antisionisme et au combat que représente Tzedek et de nombreuses luttes sur ce qui est fait en Palestine. C'est que vous pouvez remarquer quand vous assistez à des manifestations ou des revendications politiques d'ordre égalitaire, social ou pour la justice, quels que soient les combats, justement liés aux luttes qu'on face à l'homophobie, aux luttes face à la, face aux inégalités sociales, que en fait le combat en Palestine, la résistance face au sionisme, c'est aussi la résistance face à l'impérialisme, c'est aussi la résistance face à une forme de capitalisme très 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 importante avec un allié d'Israël qui est les Américains, qui sont les tenants. Et à bout de les tenants et producteurs massifs de capitalisme mondial depuis très longtemps maintenant. Et donc, il y a aussi tout cet enjeu intersectionnel que représente la lutte antisioniste, que nous aussi on porte dans nos valeurs justement antiracistes et décoloniales, qui est très importante à souligner. Être antisioniste, c'est aussi revendiquer d'autres combats qui sont effectivement liés à toutes les luttes discriminatoires de genre, de race, et évidemment combattre aussi pour la justice sociale, et la justice sociale au sein même d'ailleurs de la société israélienne, qui se préoccupe aussi quotidiennement, parfois beaucoup plus, d'enjeux socio-économiques que d'enjeux militaires et discriminatoires d'une autre population. Mais on y reviendra.
J'étais partie pour une petite pause, mais on va la retarder. On va rester en attendant que Sidi nous rejoigne dans le studio.
Bah, peut-être pour continuer un peu, moi je voulais dire aussi que quand on voit que ceux qui, en gros les alliés d'Israël sont de plus en plus fascistes, peut-être on pourrait se poser des questions, mais bon, c'était aussi pour dire que oui, en France par exemple, nous on est souvent insultés facilement d'antisémites ou de tokens. Pour les antisémites, comme si on donnait des badges pour camoufler les antisémites, mais que finalement, ceux qui soutenaient le plus l'antisémitisme étaient quand même de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, tous ceux qui avaient ce deux poids deux mesures.
Justement, comment est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu l'alliance et la salutation entre Habib Meyer et Jordan Bardella.
Avi, je te laisse un petit peu donner ton avis.
c'est pas le meilleur, mais bon.
Je crois que le mot pour exprimer ce que j'ai ressenti, c'est je l'ai pas exactement, c'est
peut-être la honte. Moi c'est de la honte, hein, pour ma
part. De l'incompréhension, mais du l'impression d'être dans un monde parallèle un peu. C'est en fait, j'ai l'impression des fois que certaines institutions juives en France, en tout cas, font le jeu de l'extrême droite et participent en fait à toute cette instrumentalisation de l'antisémitisme. Ils rentrent un peu dans le piège que leur tend un peu l'extrême droite. Ça me dépasse un petit peu.
Oui, on a vu récemment le nouveau président argentin danser près du mur ou à proximité du mur, je ne sais pas, Orban.
Oui. Orban, je veux dire Bolsonaro, les nombreuses alliances qu'a pu faire Netanyahou ces 20 dernières années avec beaucoup de leaders et dirigeants d'extrême droite qui ont affiché à plusieurs reprises un antisémitisme assez virulent, laissent encore une fois produire un effet très contrasté de l'État d'Israël sur la protection des Juifs dans le monde. Et pour revenir à la question d'avant sur son meilleur Habib avec Jordan Bardella, le sentiment que moi j'ai pu avoir, après j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, à Adam, c'est que moi personnellement, j'ai vraiment ressenti beaucoup de honte. J'ai grandi dans une famille, je suis petit-fils de quelqu'un qui a été caché pendant la guerre et qui a subi beaucoup de familles déportées. Et dans ma famille, le Front National... c'est quelque chose, et enfin, le Rassemblement National, pardon, aujourd'hui, et ses diverses nominations, c'est quelque chose qu'on a toujours combattu très fermement. On sait que ces personnes et les personnes qui se soustraient à ce parti et cette idéologie politique ne sont souvent pas des alliés et des anciens, souvent collaborateurs, par la même occasion. Et de voir aujourd'hui certains députés qui se réclament du coup défenseurs de la population juive et qui serrent la main ou qui de moins se sentent proches de cette idéologie politique là, c'est quelque chose d'assez honteux, d'assez problématique et assez honteux. Et c'est là aussi où Tzedek existe et veut exister justement pour que notre parole à nous, elle soit absolument pas assimilée à celle d'un personnage, d'un odieux personnage comme Meir Habib, sans faire de discrimination ni d'injure quelconque volontaire. Mais voilà, on ne veut absolument pas être assimilé à ça. Et le not in our name, c'est ça aussi.
Oui, enfin, de la honte, du dégoût. J'aimerais bien me mettre insulté, mais c'est pas ici que je vais le faire. Non, mais moi, je trouve que c'est très révélateur, en fait, d'une des perversions du sionisme. Le sionisme, et surtout dans ses actions impérialistes et coloniales, il dichotomise, en fait, même l'identité juive et surtout l'identité entre ses alliés et ses ennemis. Donc déjà, dans l'identité juive, ce qu'il fait, c'est que s'il y a un juif qui n'est pas sioniste, donc qui est anti-sioniste, comme nous par exemple, il va justement lui enlever son identité juive. Parce qu'en gros, comme il aura donc déjà unifié l'identité juive autour justement de ce sionisme, donc de ce projet colonial, de ce projet d'État-nation et de nouvelle anthropologie, il va donc faire le choix entre ceux qui sont en accord avec lui, en accord avec donc, sa politique, et ceux qui ne le sont pas. Donc nous, on est très, très souvent, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, soit insultés d'antisémites, soit même on nous demande si on est vraiment juif. Est-ce que, on retrouve très souvent, est-ce qu'on a le certificat de judaïsme, enfin, est-ce qu'on a la ketouba des parents, donc la signature du mariage. Et en plus de ça, même par rapport aux non-juifs, il crée en fait une dichotomie pareille dans ceux qui suivent la ligne politique et ceux qui ne la suivent pas. Et donc, on a vraiment bien à l'œuvre avec Bolsonaro, avec Orban, Javier Milei, et où ils utilisent en gros une symbolique religieuse du clash des civilisations, où on montre vraiment, où c'est un petit peu l'avant-poste de cet Occident colonial qui combat la barbarie. Il y a tout un tas de symboliques qui montrent, entre guillemets, le juif puissant, intellectuel, Israël est une démocratie. Enfin, il y a toute cette rhétorique qui tend à justifier le colonialisme. Et pire que ça, les violences de l'État israélien. Et tous ceux qui plus ou moins sont humanistes deviennent des islamo-gauchistes, des antisémites, et sont contre justement une politique qui a été qui s'est collé à l'identité juive. Donc, dès qu'on devient contre ce projet politique, alors on serait contre l'identité juive, ce qui est faux. Parce que nous, on est là, entre guillemets. C'est ça aussi qu'on veut dire. Moi, je ne parle pas au nom de tous les juifs, parce que je pense qu'il est impossible et qu'il ne devrait pas être possible de parler au nom de tous les juifs. Mais je veux aussi montrer que ça n'est pas parce qu'on critique certains juifs qui ont un projet colonial, un projet raciste, d'apartheid et de violence, qu'on est antisémite. Non, justement, on est simplement humaniste. Bon, c'était mon dégoût.
Je voulais juste revenir justement sur cette phrase de Ronnie Broman qui dit que l'État d'Israël met en danger les juifs. Voilà. Comment vous le ressentez, ça? Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Moi, personnellement, c'est pas une phrase qui me choque ni une phrase qui m'étonne. Il y a d'ailleurs tout un ouvrage qui est consacré à ça de Sylvain Sipel qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs » que je vous recommande absolument. Et c'est quelque chose qui est aussi avéré. D'abord, pour revenir sur quelque chose qui a été mentionné précédemment, je pense qu'aujourd'hui, là où une personne de confession juive serait le moins en sécurité, c'est probablement l'État d'Israël. Il faut d'abord revenir sur ça. Aujourd'hui, à moins d'être soumis à une formation militaire constante que l'État veut, oblige à tous ses concitoyens, on est quand même soumis à un danger, de même par sa propre population. On sait que depuis le 7 octobre, il y a eu pas mal de morts juifs juifs israéliens faits par des juifs israéliens aussi. C'est des choses qui sont arrivées, que ce soit accidentel ou non, c'est arrivé. Et effectivement, de par ces alliances avec des pays fascisants d'extrême droite et des dirigeants qui se sont à plusieurs reprises, comme je le disais précédemment, qui ont manifesté à plusieurs reprises un antisémitisme vraiment virulent, aujourd'hui, Israël, avec ses soutiens-là, manifeste et produit une forme d'antisémitisme assez violente. Et quand on pense aussi, par exemple, aux États-Unis, donc le plus grand allié d'Israël, on pense à des personnalités comme Trump, qui s'est voulu longtemps un grand allié d'Israël, mais qui, en fait, dessert uniquement les objectifs électoraux qu'il souhaite mettre en place, avec une communauté évangéliste qui vote massivement pour lui et pour diverses lois et financements, aides pour l'État d'Israël, pour des projets religieux et souvent qui n'ont absolument pas, qui n'ont aucune forme de quoi que ce soit en faveur des Juifs ou des Israéliens dans le monde. Donc il faut revenir sur cette phrase. Si vous avez bien fait de parler de cette phrase, qui est pour moi non seulement symbolique, mais qui est assez vraie.
Moi aussi, je voudrais revenir. On dit souvent que le conflit s'exporte, que soi-disant qu'il y aurait un antisémitisme en France qui viendrait du conflit israélo-palestinien, et que c'est parce qu'il y a la guerre là-bas que, enfin, et qu'il y a cette représentation, c'est les Juifs contre les Arabes, et ça. Mais l'antisémitisme en France, en tout cas, je pense surtout les stéréotypes qu'on a du Juif, c'est pas vraiment le colon qui attaque, justement. Le stéréotype antisémite français, il vient de la tradition antisémite française, dans le sens même ceux qui sont repris entre guillemets par des populations donc immigrantes ou descendantes d'immigrants, elles viennent des traditions françaises, des structures qui ont été appliquées et pensées par la tradition française. Mais c'est simplement parce que l'antisémitisme français européen ne s'est jamais déconstruit après la Shoah, donc après l'Holocauste. L'extermination de beaucoup de juifs, et d'ailleurs je voudrais dire aussi de beaucoup de tziganes, d'homosexuels et de communistes, d'handicapés, qui justement ont connu le même parcours que le nôtre d'être toujours des étrangers sur leur propre terre. Je voudrais juste dire quand même que ça fait presque 1200 ans que les Roms sont en France, et pourtant ils ne sont pas considérés comme des Français. Je trouve qu'on est assez similaire sur ce point, donc nous on veut combattre là-dessus, mais c'est surtout que toute cette structure antisémite, elle est encore là. C'est celle qui a amené à la Shoah de voir justement qu'il y aurait un étranger sur sa terre qui est riche, qui contrôle et qui tire les ficelles de toute la politique. C'est toujours le même antisémitisme. C'est le même qui a été utilisé par Hitler. C'est le même qui vient du protocole du Sage des Sions. Et ça n'est pas du tout un antisémitisme qui est importé. Enfin, c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Et de continuer à faire alliance avec des racistes, antisémites, comme presque qui s'assument. Oui, du dégoût, pour revenir à cette première question. Meir Habib, c'est du dégoût. C'est juste du dégoût que j'ai. Voilà.
Peut-être une toute petite pause. Il est 18h36 à l'horloge du studio. On repart sur un petit peu de musique.
ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج، إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق.
الحب خطير جدا ما أحدث. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. إني أتنفس تحت الماء.
Alors, on a évoqué tout à l'heure les liens avec ce qui s'est dépassé, l'accolade, Meir Habib Bardella, les insultes d'ailleurs de Bardella au député de Marseille, Manuel Bompard, juste à côté. Et vous vouliez peut-être revenir aussi sur cette commémoration et les termes qui ont été employés. Tout à l'heure, tu parlais de... ce ne sont pas les mêmes types de victimes. Oui, toutes les vies ont la même valeur, mais et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours de cette cérémonie, autour de cette cérémonie.
Donc, pour revenir effectivement sur cette cérémonie, qui est effectivement liée à l'accolade dont on parlait précédemment, c'est important de revenir dessus. Donc, cette cérémonie, elle a été réalisée dans le cadre des victimes du coup françaises des attaques du 7 octobre, qu'on décompte, il me semble, au nombre de 42, si je me trompe pas. Alors c'est un hommage qui, à titre d'hommage, pose et soulève pas mal d'interrogations. D'abord, d'abord, première chose, je tiens tous à souligner évidemment le respect et l'hommage qu'on a aussi pour ces victimes-là du 7 octobre qui sont morts aussi dans d'affreuses souffrances et qu'on supporte évidemment. Mais en fait, il a été intéressant de se pencher ici sur la terminologie utilisée par notre président de la République et ses alliés. Notamment celle de victimes d'antisémitisme. Et c'est ici intéressant...
Du plus grand acte antisémite...
Depuis le XXIe siècle.
Voilà, de notre siècle.
Et c'était intéressant, d'abord, du XXIe siècle, oui, c'est ça. C'est intéressant de revenir sur cette terminologie parce qu'elle consiste à dire que ces personnes, aussi innocentes soient-elles, sont mortes parce qu'elles étaient juives. Et que les attaques réalisées par le Hamas étaient faites et produites sur des personnes de confession juive. Si ces personnes sont de confession juive... Elles sont avant tout israéliennes. Et c'est surtout à ce titre-là qu'elles ont été attaquées et touchées. Elles ne sont pas relatives aux structures étatiques d'Israël. Il ne s'agit ni d'un corps armé, il s'agit effectivement d'un corps de personnes innocentes. Mais elles ont été attaquées parce qu'elles sont israéliennes et parce qu'elles représentent, du coup, d'une certaine manière, la population et l'entité sioniste qui vit justement dans ce cadre-là, très proche de Gaza. Et revenir et utiliser la terminologie d'antisémitisme, c'est en fait faire d'abord une erreur historique majeure sur le terme antisémitisme et sur la structure de ce racisme. Et c'est particulièrement dommageable aux populations juives diasporiques du monde entier. Et ça renvoie en fait aussi à l'idée que toutes les populations juives, comme le disait très bien Adam, sont un bloc monolithique lié à la population israélienne et qu'on serait tous plus ou moins menacés de dangers et d'extinctions, comme le souhaite souvent souligner l'État d'Israël, parce qu'on est juif. Et donc c'est aussi instaurer une peur généralisée, c'est faire vraiment honte et erreur historique à ce terme qui est très chargé. Et c'est quelque chose que nous, à TEDEC, on ne supporte pas et qu'on ne veut absolument pas... qu'on souhaite vraiment revenir sur la terminologie. Je te laisse...
C'est aussi... On a entendu plusieurs fois, je ne crois pas que le président l'ait dit, mais le terme de pogrom, que le 7 octobre a été un grand pogrom et tout ça. Je veux juste rappeler que les pogroms étaient faits dans des ghettos, donc dans des populations juives civiles qui n'avaient aucune défense, qui étaient oppressés et qui n'étaient pas oppresseurs. Enfin, c'est quand même ça, remettre ça un petit peu en contexte, que l'utilisation du terme pogrom. Le terme pogrom, oui, a été utilisé par rapport aux populations juives, mais parce qu'elles étaient en Europe, dans certains cas, dans des positions oppressées. Maintenant, pour revenir, justement, comme tu parlais sur le politique et l'historique, il faut quand même remarquer, là, on pourrait peut-être parler, peut-être de pogrom, mais c'est que Gaza, c'est une petite enclave insérée, fermée partout où les Gazaouis ne peuvent pas sortir, exactement comme les ghettos, et on vient les chercher par l'air, par la terre, par tous les moyens pour les attaquer. Mais là, bien entendu, on n'a jamais entendu le terme de pogrom. Enfin, on ressent vraiment ce deux poids, deux mesures par, en tout cas là, par la terminologie qui est utilisée, où non, les vies n'ont pas les mêmes valeurs. Et je trouve ça fou que en gros, on penserait que ma vie, parce que moi je suis juif, elle aurait plus de valeur que la vie d'un Gazaoui. Et malgré ça, c'est quand même ça qui paraît assez fou, c'est qu'en France, y a quand même de l'antisémitisme. Et notamment, peut-être c'était l'idée peut-être de parler, c'est que on a été censuré à plusieurs reprises pour parler justement d'antisémitisme, de la Shoah et de la mémoire.
Oui, tout à fait. On a eu une première censure. Le cinéma dans lequel on devait passer le film La Zone d'intérêt a été ce ciné-club a été annulé. Le cinéma aurait reçu des pressions dues au fait que nous sommes un collectif antisioniste et que notre position n'était pas très claire justement sur ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Nous avons essayé de reprogrammer une deuxième projection dans un autre cinéma avec l'historien Johan Chapoutot. Et celui-ci a reçu énormément de pression qui a fait qu'on n'a pas pu finalement...
Il a dû annuler sa venue.
Il a annulé sa venue, mais le problème, en fait, c'est que il y avait une autre femme qui aurait dû parler, en fait, et malgré le fait qu'il n'était pas là, ça aurait pu quand même avoir lieu.
Elle a subi des critiques comme quoi une femme non-juive ne peut pas parler de l'antisémitisme.
Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que ça pose un peu problème parce que ça...
Ça voudrait dire qu'on ne peut pas parler non plus d'antiracisme fait aux personnes noires, aux personnes de confession musulmane, sous prétexte qu'on n'appartiendrait pas, on ne serait pas...
Oui, mais surtout que ce n'est même pas un sujet, d'ailleurs même si on parle de la Palestine, ce n'est même plus une situation de juifs non-juifs, c'est une situation de colons indigènes, et donc n'importe quelle personne devrait être légitime de pouvoir parler sur le sujet, en fait. On n'a pas besoin d'être juif pour pouvoir parler de ce qui se passe en Palestine, selon moi en tout cas.
Complètement, et c'est ce que disait Adam, c'est avant tout des questions humanistes, des questions universalistes, ce qui se passe en Israël et en Palestine, et ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de conflits, notamment plein de conflits, la Russie, l'Ukraine, plein de choses dans le monde. C'est des questions de relations internationales, des questions de questions de société auxquelles on peut tous et on doit tous s'interroger, c'est évident.
Mais moi, je m'essaye peut-être sur un petit truc, peut-être que j'aurai tort bientôt, mais le pouvoir a essayé de combattre l'antisémitisme en disant que tout antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais en fait, le président ne combat pas du tout l'antisémitisme, ce qu'il combat, c'est l'antisionisme. Et à chaque fois que lui utilise le terme d'antisémitisme, ce qu'il parle, c'est de l'antisionisme. L'attaque du Hamas était antisioniste, principalement. Après, je n'ai aucune sympathie pour un groupe violent, armé, qui justement veut tuer des gens. Je suis juste humaniste, je veux que les gens vivent. Mais quand le président de la République parle d'antisémitisme, ce qu'il dit, c'est simplement l'antisionisme. Et nous, qui sommes juifs et qui ont envie d'exister de manière culturelle et de manière militante, nous, on se fait bafouer. Non pas parce que on est juif, mais parce qu'on est antisioniste. Et donc, là-dessus encore, l'État opère un antisémitisme au vu de son, je ne sais pas comment on dirait, philosionicisme.
Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et je reviendrai sur ce que tu dis. C'est vrai, cette commémoration, du coup, elle continue et en fait, elle s'insère dans la longue durée de l'ignorance et de la non-effectivité des politiques français au regard de la situation israélo-palestinienne depuis maintenant pas mal d'années. Macron s'est imposé comme une personne ne s'intéressant pas forcément énormément à ces questions, ne s'étant pas forcément par ailleurs progressé ou même se perfectionner sur ces questions. Et on a vu depuis le 7 octobre et même avant de nombreuses interventions qui tournent le président et ses proches au ridicule, notamment cette idée de vouloir créer une union et une alliance face à tous les groupes qu'on assimilerait comme terroristes, donc mettre dans un même pot et dans un même sac l'État islamique, Daesh et le Hamas, qui est aussi un mouvement qui est un mouvement qui n'est pas uniquement terroriste, enfin, un mouvement qui est très difficile à définir, mais qui est loin d'être uniquement un groupe terroriste, mais qui est aussi un groupe de résistance financé, on le sait maintenant, c'est documenté pendant de longues durées par Netanyahou et ses alliés. Donc, avec cette commémoration, Macron ne fait que continuer cette lignée d'ignorance sur ce conflit et de positionnement qui met en trouble et en danger les populations juives diasporiques de France et de partout dans le monde.
Qui est antisémite, en
fait. Et qui est antisémite, effectivement.
Ouais. Même dans le fait de pouvoir, de penser, pouvoir définir qu'est-ce que c'est le judaïsme,
effectivement,
c'est antisémite. Enfin, de ne pas laisser les populations elles-mêmes pouvoir s'identifier, pouvoir créer culturellement quelque chose qu'ils vont penser comme étant leur, mais c'est leur enlever leur identité, et enfin, c'est colonial, c'est raciste et antisémite. Enfin, comment ils font pour ne pas s'en rendre compte c'est pas des termes qu'on doit utiliser.
Après, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas forcément... Moi, ce qui ressort vraiment des interventions de Macron et de la Macronie en général, c'est vraiment une forme d'ignorance sur le sujet. Et je pense qu'on est là-dedans. Vas-y, je t'en prie.
Non, d'ailleurs, je voulais dire, parce que il y a... Je crois qu'il est historien, Dominique Vidal, qui a écrit un livre, en fait, en réponse à Emmanuel Macron, qui est très intéressant. Je crois que ça s'appelle « Antisionisme de l'antisionisme égale antisémitisme, une réponse à Emmanuel Macron », enfin, vous le trouverez
facilement.
Réponse ouverte,
oui, c'est ça. Ouais.
Une réponse ouverte, et il revient un petit peu sur même toute l'histoire du sionisme, etc. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, comme réponse.
Écoutez, je crois qu'on a encore quelques minutes. Je voudrais quand même faire un petit peu d'actualité très, très rapidement. Mais je pense qu'il faudra quand même une prochaine émission. Hein, il y a beaucoup avec de plaisir. Choses à dire. Et, alors, ce ne sera peut-être pas avec moi, mais régulièrement, comme toutes les semaines, il y a une émission. Je pense qu'il faudra vraiment que vous reveniez. Et je voulais juste vous lire un message qu'on a reçu de la bande du sud de la bande de Gaza. C'est un jeune homme que l'on connaît, nous le connaissons, il avait 17 ans. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il en a 47, il a 3 enfants, il a eu un bébé en septembre. Et les messages qu'on recevait à l'époque nous disaient que sa femme n'avait pas de lait parce que les conditions de vie étaient telles qu'elle n'avait pas de lait et qu'il n'avait plus rien puisque les maisons à Gaza ont été bombardées. Donc ils sont partis vers Khan Younes et puis maintenant ils sont à Rafah. Et le message qu'on a reçu, parce que ça faisait 3 semaines qu'on avait... un mois qu'on n'avait plus de nouvelles et qu'on était presque à faire une veillée funèbre. Et il a envoyé un message en disant « Je suis très heureux de pouvoir vous contacter. Je suis très fatigué. Mon frère est mort la semaine dernière à l'hôpital. Et je suis maintenant détenu dans l'hôpital Nasser à Khan Younes. J'y suis venu pour m'occuper des obsèques de mon frère. » Et depuis, nous sommes pris dans le piège de l'hôpital, nous sommes assiégés et je ne peux pas sortir. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais d'un enfant qui a été abattu par un sniper devant l'hôpital.
Oui.
Voilà, alors il se passe plein de choses à Marseille, et en particulier les manifestations toutes les semaines. Alors avis à tous ceux qui nous écoutent, le 18, dimanche prochain, la manifestation n'aura pas lieu à 14h, mais à 15h, à la Porte d'Aix, toujours. Ce samedi 17 février, il y aura à Marseille au moins 2 actions de boycott de magasins Carrefour. Vous savez, qui a livré des repas et qui ouvre des magasins, non seulement dans les colonies, mais qui a conclu un accord avec une entreprise israélienne. Donc en France, Carrefour maltraite ses salariés, passe ses magasins en gérance location, augmente l'exploitation des salariés et va augmenter la colonisation, va soutenir la colonisation israélienne. Donc il est temps de lui dire Carrefour, ça suffit. Et on le dira à Marseille, on le dira aussi à Aix-en-Provence, où il y aura aussi une action samedi sans doute, puisque c'est la journée nationale d'action par rapport à Carrefour. Un autre événement, alors samedi après-midi, il y a aussi l'action à Carrefour le matin, l'après-midi, il y a... Alors voilà, tu as l'information... Oui,
journée de soutien pour la Palestine avec Urgence Palestine Marseille et Zazem, c'est ça? D'ailleurs, je crois qu'on va être présents, que certains d'entre nous seront présents. C'est donc à midi à Sabiha, 64 cours Julien.
À partir du midi.
C'est ça. Et jusqu'à 19h, 20h,
il y aura... Ça va même plus loin. Non, il me semble que ça dure jusqu'à 2h du matin.
Ah, on parle. Ouais.
Et il y aura des métros, donc c'est bien pour les jeunes. Les vieux resteront à la maison pour se reposer de toutes les activités de la journée. Le 2 mars, on l'annonce, dès maintenant, on projettera au Vidéodrome le film de la réalisatrice Muriel Jacoub qui s'appelle « La clé de sol » et qui relate un périple entre le sud, depuis la bande de Gaza, en faisant tout le tour de la Palestine de 1948 jusqu'à la Palestine occupée en 1967, où on pourra rencontrer, y compris par la Jordanie, par le Liban et la Syrie, on pourra rencontrer des familles palestiniennes qui parlent des descendants de Palestiniens chassés en 1948, ou même des personnes qui sont descendantes directes, c'est-à-dire pas qui sont nées en... il y a une dame de Ramallah qui est née avant 1948, mais sinon qui raconte leur lien justement avec la clé et tout ce que cela rapporte, où est la clé et qu'est-ce qu'elle représente dans l'inconscient palestinien. Et puis il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire sur l'actualité. Il y a Gaza, mon amour, vendredi. Ah oui, au Ciné-Club Solidaire. C'est au local de Solidaire, sur le boulevard Longchamp, c'est ça ? Alors, il y a le vendredi soir, Ciné Solidaire à 19h. Et puis, viens nous le dire au micro, tu es un peu loin, on t'entendra mal, les auditeurs t'entendront beaucoup mieux, vas-y, prends
demain
le micro.
Demain soir, à 19h30, à la cantine de la Belle de Mai, Forager, c'est... les cueilleurs d'herbes sauvages face aux colons en Cisjordanie.
Et puis juste une dernière chose, demain soir aussi à 19h au MUCEM, c'est une conférence avec Jean-Pierre Filu et j'ai oublié le prénom de
Vincent
monsieur.
Vincent
Lemire. Qui nous parlera de l'histoire de la Palestine et de la situation actuelle. Voilà, il est l'heure. On démarre avec le générique. Merci à vous d'être venus et à bientôt pour une autre émission.
Merci beaucoup.
C'était
Merci
une
beaucoup.
Heure en Palestine, Merci. Comme chaque semaine. Merci.